Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 15e pour cette 6e saison. Première partie avec invité aujourd'hui Monsieur Jean-François Darrot pour le Rassemblement National. Que nous retrouverons.
Rassemblement narbonnais des droites et du centre.
Oui, mais soutenu par le Rassemblement national. Oui. On y reviendra, je ne
Tout
me trompe
fait.
Pas, je crois là-dessus. Nous avons un sommaire, bonjour Michel, avec sujet des contre-regards habituels, puisque l'appellation contrôlée, ce sont des contre-regards.
Oui, la marque est déposée face à l'Olympique.
Déposée, absolument. Oui. Ces sinistres processions qui rappellent d'autres époques, premier billet. Ensuite, Bascou quitte la scène politique sans héritier. Dans une deuxième partie, un coup de vieux sur la liste de Madame Granier-Calvé. Et puis, pour notre invité du jour, Narbonne municipale 2020, que nous disent Alliot et Darrot. Nous commençons donc par ces sinistres processions. Alors, c'est la tête de Macron, enfin, pas la vraie tête, heureusement, mais une effigie, sur une pique.
Oui, Jean-Claude,
tout le monde a vu, évidemment, sur les réseaux sociaux.
Je ne sais pas si tout le monde l'a vu.
Ça a fait le tour du monde.
Quoi. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, à Narbonne, en tout cas. Mais moi, je l'ai vu, et pas le seul sur les réseaux sociaux. Quelques bons éditorialistes ont fait des commentaires sur le sujet, mais ben, je dois le dire, et pourquoi pas ne pas le dire ici, j'ai été profondément choqué par ces images.
Ah ben, t'as pas été le seul, je te rassure.
Hein. Choqué parce que, alors, de deux choses l'une, hein. Ou les gens qui manipulent ces symboles en ignorent en fait, l'origine historique en fait, et ce qu'ils signifiaient à l'époque.
Il doit y avoir un
première,
peu de ça
première,
aussi.
Ou, deuxième question, ils les connaissent parfaitement, en fait, ces symboles, leur portée en fait, et leur origine et dans quel contexte ils ont été manipulés. Et ceux qui, effectivement, instrumentalisent ce genre de symboles, je les considère effectivement comme des boutefeux, comme des gens qui poussent effectivement à la fureur morale, en fait, et à l'indignation.
Il y a ceux qui
stupide.
Savent bien ce que ça veut dire, qui manipulent, et puis il y en a d'autres qui peut-être innocemment.
Car quand même, rappelons-le très rapidement pour nos auditeurs qui l'ignoreraient, ces nuits faites au flambeau, hein, avec les pics qui pesaient avec l'effigie en carton du président de la République au bout d'une pique. Pour les flambeaux, ça rappelle sinistrement en fait l'époque d'une certaine domination en fait nazie faite dans notre pays. En fait, hein, la nuit des flambeaux de Nuremberg, j'en passe. Si les gens que ça intéresse, donc à cliquer Nuremberg et flambeaux, ils verront de quoi en fait il s'agit. Et deux, en fait, ces pics avec ces têtes en effigie en carton rappellent sinistrement aussi une certaine période historique de notre propre histoire, dont on n'a pas forcément à se flatter quand effectivement elle se manifeste aujourd'hui à travers ce type de rappel.
Une période de notre histoire qu'on a appelée la terreur.
La terreur.
La terreur.
Exactement.
Oui, la terreur.
Merci pour cette
dans laquelle surajout. D'ailleurs un des initiateurs Robespierre a fini victime de son. De
oui,
son
absolument.
Ceux qui manipulent ces symboles inconsciemment, je parle pour les gens de la base qui se promènent avec, encore que je ne suis pas sûr qu'ils les ignorent, ne savent pas effectivement qu'historiquement, les mêmes qui promettaient aux dirigeants de l'époque l'échafaud ont fini eux aussi par avoir leur tête tombée en fait quelques temps après. Donc les manipulateurs...
Oui, ben, Bible ne disait-elle pas déjà qui utilise ou qui tue par le glaive, finira par le glaive.
C'est... Oui,
Monsieur Darrot le sait très bien.
Jean-Claude, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît, faites mes chroniques. Faites...
Oui, mais on est dans un dialogue,
oui,
Michel.
Je
te rappelle que le monologue en radio est une très mauvaise chose, je te le rappelle.
Certes, mais comme j'ai très peu de temps et que ce genre de transition, j'allais la faire.
Oui, alors allez-y, mon cher. Allez-y,
coup,
mon cher,
tu
vous avez la parole.
Mais
on vous écoute,
pour en revenir donc à ce que je voulais dire et que tu as dit, faites Jean-Claude, merci pour me l'avoir soufflé d'une certaine manière. Donc je disais qu'effectivement, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, politiquement parlant, hein, où cette société dans laquelle nous vivons tous est traversée de contradictions aiguës, tendues, où, à l'évidence, elle souffre de tensions qui n'ont pas été apaisées depuis plus de 30 ans dans ce pays, j'y reviens, en fait, manipuler, en fait, ces symboles, en fait, et créer, effectivement, le chaos dans les têtes et pourquoi pas demain dans les, dans la société, est totalement irresponsable. Et je constate que, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, que tout le bénéfice politique, en fait, de ce genre de mouvement, en fait, et de ce genre de vocabulaire, en fait, de symboles, profite à un parti qui, aujourd'hui, ne dit rien à travers sa dirigeante, dont nous avons un représentant, ou en tout cas, bon, quelqu'un qui sera soutenu par ce parti aujourd'hui, fait à Narbonne, et qui en tirera tous les bénéfices politiques et symboliques. Tout ça, effectivement, au nom de valeurs, en fait, et de symboles prétendument attribués à une certaine gauche progressiste. Je termine là-dessus pour dire que, et rappeler, en fait, à nos auditeurs, hein, cette fameuse phrase de Goethe qui disait « Entre le chaos et l'ordre, je choisirai », disait Goethe, qui n'était pas, bon, quelqu'un de particulièrement réactionnaire à l'époque, en tout cas, bien au contraire, qui était un parfait républicain. Il disait « Je choisirai toujours l'ordre ». Eh bien, moi, Jean-Claude,
bon, tu me permettras... — Qui était un Allemand, quand même, pays de l'ordre, par exemple.
Oui, peut-être, mais...
Bien, je parle pas des nazis, je parle des Allemands.
Enfin, rappelons-nous quand même qu'il y a une certaine candidate à la présidence de la République qui disait, elle, qui promouvait l'ordre juste, en fait. Mmh. Donc l'ordre n'est pas forcément, en soi, effectivement, une critique, enfin, quelque chose de négatif. Donc pour terminer, en fait, et pour paraphraser d'une certaine manière Goethe, moi, je dirais que je préférerais toujours, en toutes circonstances, à choisir entre le chaos, en fait, et la République, je choisirais la République en tant que citoyen.
Oui, voilà, mais tu ne seras pas le seul, probablement.
Je l'espère.
Dans ce cas-là. Alors, deuxième billet, alors, Bascou, donc.
Très rapidement.
Là-dessus. Ancien maire, président de l'agglo du Grand Narbonne actuellement, jusqu'à la fin du mandat.
C'est ça.
S'en va.
Oui,
il l'a dit depuis longtemps.
Oui, il l'a dit.
Il l'a dit à ce micro plusieurs fois, clairement.
Il l'a dit.
Maintenant, sans héritier, là, ce qui
oui, enfin, je reviens très rapidement sur la longue interview de Jacques Bascou dans l'Indépendant, je crois que c'était dimanche dernier, me semble-t-il, hein, où il dit qu'il n'a pas d'héritier. Je note quand même, Jean-Claude, qu'aucun des prétendants aujourd'hui de gauche ou du centre-gauche pour les prochaines municipales ne réclame effectivement l'héritage en question, en fait. Il est totalement oublié, en fait, dans le vocabulaire ou dans les références politiques des différents candidats, y compris de ceux qui appartenaient au même parti que lui avant qu'il en démissionnât, en fait, il y a quelque temps. Tu le sais aussi bien que moi, je ne vais pas y revenir. Donc on est dans une situation, en fait, où Jacques Bascou dit bah, « Après moi, le déluge, encore que ». Je n'en suis pas sûr, car à lire attentivement son interview, certains prétendant qu'il s'était totalement dégagé de ces municipales-ci, j'ai tendance à penser, moi, au contraire, qu'il attend tranquillement que le premier tour passe et que le second arrivant, il prendra là, si, dans certaines circonstances, la liste qui a son attention aujourd'hui, sans qu'il le dise clairement, prendra clairement position pour se mettre derrière elle et lui apposer son blanc-seing. Encore que je ne suis pas sûr, mais là aussi, tout dépendra des circonstances, que le blanc-seing de Jacques Bascou fait au deuxième tour soit forcément une plus-value pour le candidat qui souhaiterait effectivement avoir quelques soutiens de forces dites de gauche.
Ça dépendra quand même de qui sera ce candidat. Ça
exactement.
Aura peut-être une plus-value plus ou moins forte.
Exactement.
Dernier. Que M. Bascou est dernier un homme de qualité que j'apprécie beaucoup.
Dernier point. Il me le faisait remarquer, et alors, il a raison, quoi. Hein, un dimanche matin au Halles, où il observait, comme moi d'ailleurs, de l'intérieur des Halles, les mouvements des différentes troupes militantes qui distribuaient leurs tracts sur le parvis des Halles, il me faisait remarquer, Jacques Bascou, que jamais, depuis qu'il avait déclaré qu'il n'était plus candidat, il ne bénéficiait auprès de gens qu'il rencontrait d'un prestige, en fait, et d'une sympathie aussi manifeste qu'il aurait souhaité qu'elle se manifestât, en fait, quand il était effectivement aux affaires.
Oui, mais ça, c'est probablement la loi du genre, et c'est là-dessus.
Non, je lui ai dit que c'était le théorème de Chirac, en fait, et autant d'autres.
Oui, 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 voilà. Mais pour ça, je dis, c'est un peu une loi du genre. Ce qui nous permet de marquer une première pause.